Punchline sur Europe 1, Patrice Boisfer.
Allez, de retour sur le plateau de Punchline, toujours avec Gilles Mintré, ancien diplomate à Moscou, Jeannette Bourrap qui est essayiste, Amine Katmi essayiste et Alexandre Chauveau qui est du service politique d'Europe 1. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire. Les mots cet après-midi du président français Emmanuel Macron qui s'est rendu, et c'est historique, du côté de Kiev. Le président Macron qui était avec trois autres homologues européens du côté de Irpin ce matin. Je vous propose de l'écouter.
Vous êtes ici à Irpin sur un site qui a été détruit où, en effet, l'armée russe a été arrêtée à côté de plusieurs autres villes où des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre sur lesquels nous coopérons d'ailleurs très fortement. Et je veux remercier l'ensemble des gendarmes, experts, magistrats français qui ont été déployés dès les premiers jours aux côtés des experts. Nous avons tous vu ces images d'une ville dévastée qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que, entre autres, que les Ukrainiens et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous êtes?
Et à côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie.
Voilà, le président Macron qui a été confronté à la réalité ce matin en banlieue de Kiev à Irpin. Jeannette Bougrab, essayiste, est-ce que justement le président Macron est confronté à cette réalité, est en train de changer son champ lexical ou
non, changer d'avis ou pas forcément? J'ai trouvé assez juste dans son... J'ai trouvé les critiques à son endroit et pourtant je ne suis jamais avare de critiques à son endroit.
Un peu dur.
Très juste sur sa manière d'avouer... Il n'a pas joué l'équilibriste. Il a raison de dire qu'à un moment ou à un autre, et ce n'est pas Gilles Mintré qui va me contredire, qu'il faudra bien discuter avec la Russie. Donc, de même sur la décision historique, certes, de candidature de l'Ukraine, elle était attendue, cette décision. On faisait croire à un suspense, elle est attendue, elle est importante.
C'est parce la partie
que,
quand il dit il ne faut pas humilier les Russes, c'est ça qui n'a pas été très bien pris de la part des
Ukrainiens. Seule chose, c'est qu'on sait très bien, et sans les comparaisons n'est pas raison, on sait très bien les différentes guerres que là ce continent a connues, que l'humiliation dans la défaite, ça peut conduire au pire. Voilà. Et donc, du coup, ce n'est pas ce qu'il a dit, d'autres l'ont dit. Kissinger l'a dit à Davos, Noam Chomsky l'a dit aux États-Unis. Si on veut, à un moment ou à un autre, et justement, la question de la candidature à l'Union européenne montrera que l'Union européenne est derrière l'Ukraine, mais qu'il faut que la guerre cesse, il faut que des civils arrêtent de mourir. On peut avoir tous les égos possibles, estimer que seule la victoire militaire est une victoire satisfaisante, mais aujourd'hui, ceux qui meurent quand c'est des civils, c'est inacceptable. Donc il faut que ça s'arrête. Et donc et là-dessus, moi je pense que le président a raison de dire il faut dialoguer. Il est courageux parce qu'il livre aussi des armes, il y est allé, c'est pas la première fois qu'il va à Kiev et ça là-dessus on peut pas lui reprocher.
Amine et Katmi, essayiste, l'émotion est-elle en train de prendre le pas dans ce conflit?
Non, l'émotion non, je crois que l'émotion elle était surtout au début parce que la guerre revenait en Europe et que ça a évidemment choqué à juste titre beaucoup de concitoyens. Mais je suis d'accord par rapport à ce que disait Jeannette. Quand on veut faire la paix, il faut être deux. Il faut mettre. Vous pouvez pas d'un côté vouloir mettre les gens autour de la table pour négocier et de l'autre affirmer vouloir l'humiliation d'une des deux parties prenantes au conflit. Et on a des exemples très nombreux dans l'histoire récente ou plus ancienne de conflits où, y compris dans les moments les plus tendus, dans les moments les plus durs, lorsque la violence était la plus grande, il y avait quelque part des gens, des deux camps qui, autour d'une table, essayaient de dessiner ce qui pourrait être une issue de sortie. Le pire dans une guerre, c'est quand les gens ne se parlent plus. Et quand les seules choses qui parlent, ce sont des armes. Ça, c'est la situation la plus terrible parce que c'est une situation qui est sans issue.
D'autant que les Russes sont en train de gagner du terrain. Là,
oui. Non, mais bien sûr. Mais,
et donc, du coup,
mais ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir en même temps de discussion, et ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas refuser l'humiliation des Russes. On peut dire que les Russes ont été les premiers à agresser les Ukrainiens. On peut dire qu'ils ont commis des exactions. Il y a eu des débats, on a eu cette discussion il y a deux jours sur crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Bref, on sait qu'ils ont un certain nombre de soldats russes et de régiments russes sont responsables de crimes absolument monstrueux. Donc ça, c'est établi, ce sont des faits. Mais vouloir l'humiliation de la Russie, c'est vouloir finalement que ce conflit ne soit jamais réglé.
Alexandre Chauveau.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, Emmanuel Macron, il a pas changé de position. Il dit toujours la même chose. Il dit d'un côté soutien inconditionnel à l'Ukraine, avec toutes les mesures qu'on a énoncées, livraison des canons César, le laboratoire mobile d'ADN, la demande de déblocage des ports ukrainiens, notamment celui d'Odessa.
Et de l'autre côté, du blocus, ouais.
Ouais, exactement. Et de l'autre côté, il est obsédé par l'idée de ne pas humilier la Russie. On sait que la confiance avait été un petit peu écornée avec Zelensky au moment où il avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Là, il l'a redit tout à l'heure. Il a dit à la fin, il faudra que ces discussions aient lieu. La France a voulu humilier l'Allemagne en 1918. Et à la fin de cette guerre, il ne faudra pas faire les erreurs que d'autres ont fait dans le passé. Il est vraiment obsédé par cette idée-là.
J'ai maintré cet appel à la levée du blocus en mer Noire. On pense notamment effectivement à la situation à Odessa. C'est un appel qui peut avoir un certain écho en Russie ou pas du tout?
Mais il y a peut-être l'espoir d'avoir une négociation spécifique sur ce sujet-là, puisqu'il s'est entretenu de cette question-là en direct avec Vladimir Poutine. Ils en ont reparlé avec Volodymyr Zelensky. De même qu'il y avait eu des négociations sur les corridors humanitaires qui avaient mis beaucoup trop longtemps à se concrétiser, mais qui avaient fini, grâce à Antonio Guterres, à se concrétiser. Il y a peut-être un chemin de discussion. Mais c'est vrai que ce n'est qu'un aspect. Je pense que la venue des quatre dirigeants européens, elle va vers la recherche d'une sortie du conflit beaucoup plus profonde. Donc je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, cette candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est le pas le plus important qu'on ait fait vers la paix depuis le début du conflit, parce que c'est ça qui va permettre à nouveau d'accepter les moyens d'un règlement. Maintenant, moi je noterais juste que Emmanuel Macron est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup avoir tort. Et donc, il a dit qu'il ne faut pas humilier une première fois. Il a dit ça a créé plein de remous. Il l'a redit, ça a créé plein de remous. Et là, il vient à Kiev. Et alors, il insiste, parce qu'il veut dire non, mais vous m'avez mal compris. Bon, moi, il aurait peut-être pu choisir d'autres mots. Bien sûr, sur le fond, on est d'accord. Il s'agit de trouver une sortie qui permette. Les Russes ne viendront à un règlement du conflit que si ça correspond aussi en partie à l'équilibre des forces sur le terrain. Donc c'est ça quand on dit qu'il ne faut pas humilier.
Sur la question d'Odessa, la seule chose, c'est qu'on a l'impression que ce conflit est un conflit entre l'Occident et la Russie. Mais il y a quelques jours, Macky Sall, et je le répète parce que les gens oublient en fait l'enjeu en termes de famine dans le monde, est allé voir Vladimir Poutine à Sotchi, et Vladimir Poutine s'est engagé à laisser sortir en tout cas les bateaux avec le blé, en disant qu'il ne s'opposerait pas à la sortie du blé ukrainien. La seule chose, c'est qu'il a dit que les ports étaient remplis de mines. Voilà. Et donc, il y a deux versions. En tout cas, moi, je pense que c'est essentiel, en tout cas, que les Européens, parce que l'une des problématiques, c'est que la banque qui permet, en tout cas, de pouvoir acheter, en tout cas, ces matières premières qui sont spécifiques, en fait, sont sorties du système SWIFT, du système international. Oui. Et donc, du coup, c'est les sanctions aussi internationales qu'on a appliquées qui conduisent, en fait, certains pays africains qui ont, je parle africain, mais pas uniquement, qui ont besoin de ce blé, qui ont besoin d'engrais, qui se trouvent pénalisés.
Cet appel à Amin El-Khatmi à lever le blocus en mer Noire à Odessa, il peut être entendu par les Russes?
Ils l'ont accepté. Macky Sall a dit oui, donc je comprends. Tu sais qu'on a du mal à entendre l'Afrique, mais il faut l'entendre. Pardonnez-moi. Non, pas du tout. C'est que je trouve que on a des pays riches, on n'a pas de problème alimentaire, on n'a pas de problème de fourniture, et donc on peut se permettre de faire ces sanctions-là pendant que le reste de l'humanité est en train de crever. Donc c'est ce coup de sang que j'ai, voilà. Et c'est ça, moi, qui me met en colère. Et donc on peut se passer, par exemple, du gaz russe, parce qu'effectivement, on est en train de négocier avec les Émiratis.
Israël.
Est allé en Israël. Et donc, mais que tous les autres, on s'en moque. Voilà, c'est le triomphe de l'égoïsme et des pays riches. Voilà.
C'est une des leçons justement de cette guerre en Ukraine.
Oui, on peut être sensible à la colère, le mot est un peu fort, mais à ce que vient de dire Jeannette, c'est vrai que on a un comportement de riche. On dit qu'on veut réduire notre dépendance énergétique de la Russie. On sait très bien qu'on peut la réduire parce qu'on a d'autres partenaires avec qui négocier. Et il y a eu effectivement hier avec Israël un accord historique. Israël va fournir l'Europe en gaz, mais il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre. On sait qu'il va y avoir avoir, il y a des pénuries alimentaires, il va y avoir des crises alimentaires très importantes dans un certain nombre de pays africains. J'ai oublié le chiffre, pardon, mais c'est l'ONU qui estimait à plusieurs dizaines de millions de personnes qui pourraient être atteintes de famine directement à cause des conséquences de la crise en Ukraine. Alors oui, on a tendance à regarder les victimes directes de la crise qui sont en Ukraine, et parce que c'est normal et parce qu'on est tous touchés, mais on a des victimes qui ne sont pas victimes de bombes, qui ne sont pas victimes, qui ne fuient pas leur ville et qui ne sont pas des réfugiés directs, qui sont restés dans leur pays, qui sont très loin de Kiev et de l'Ukraine, mais qui sont des victimes aussi de cette crise. Et c'est vrai qu'on a tendance à un peu, pour le moins, les oublier depuis le début.
Allez, vous restez avec nous tous les quatre, bien évidemment, la suite du débat, on parlera de l'Ukraine. Allez, rapidement, un mot d'éducation dans un instant, effectivement, avec le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. À tout de suite.